l'encouragement, les réponses à la prière. Et nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui parle encore, qui se manifeste encore. Et nous pouvons lui faire confiance. Et ça, c'est remarquable. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Alors j'aimerais juste parler sur le programme de Jésus sur la terre. Donc prendre un passage extrêmement bien connu. Mais parce que je trouve toujours une joie de pouvoir parler de Jésus et de son œuvre. De pouvoir dire que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et je trouve ce message tellement plein d'espérance quand on voit, comme on disait tout à l'heure, dans le monde, l'oppression, les difficultés, les mauvais choix, la haine, les destructions. On a tellement besoin d'avoir ce message de l'Évangile. Pas un message de l'Évangile qui nous fait du bien, qui nous rassure. Karl Marx disait que la religion, c'était l'opium du peuple. C'est-à-dire quand les gens vont mal, ils se tournent vers la religion pour aller mieux. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un « j'ai prié » ou « j'ai la foi en Dieu », il vous dit ah, « ben, si ça vous fait du bien, c'est bien ». On n'a pas un évangile qui constitue de l'opium. Quand on a mal, on va voir le Seigneur pour aller mieux. On a un évangile très direct, très puissant et qui se révèle, qui se manifeste. C'est la réalité dans la vie des hommes et des femmes qui se tournent vers Christ. Et dans Ésaïe chapitre 61, on trouve le programme de Jésus sur la terre. Ou une partie du programme, parce que le plus grand programme, ou le plus grand élément du programme de Jésus, c'est sa mort et sa résurrection. Mais ici, on voit sa mission pendant les 3 ans pendant lesquels il a servi parmi les hommes et les femmes. On le trouve résumé ici. Alors vous allez me dire, Ésaïe, c'est l'Ancien Testament, c'était bien avant Jésus. Effectivement, il s'agit d'une prophétie. Et Jésus, dans Luc chapitre 4, va lire ce passage dans la synagogue et il va dire que c'est accompli au travers de lui. Donc c'est une parole prophétique et qui s'est réalisée en Jésus. Ésaïe chapitre 61 commence en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Jésus pouvait dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Vous allez me dire « Mais oui, mais on croit à la Trinité ». Ça veut dire qu'on croit que Jésus est le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est Dieu, que Dieu est le Saint-Esprit, que Dieu est le Fils aussi, Jésus. C'est vrai. Mais sur la terre, Jésus devait manifester que l'Esprit de Dieu était sur lui. Et je reviendrai sur cette question de sur lui un peu plus tard. Parce que vous savez que le Nouveau Testament, c'est le message que Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu est en nous. Ça a été aussi prophétisé par Jérémie, ça a été prophétisé par Ézéchiel dans l'Ancien Testament, qu'un jour, l'Esprit de Dieu graverait les commandements de Dieu dans nos cœurs. Ce ne sera plus quelque chose qui nous vient de l'extérieur. Ne fais pas ça, ne fais plus ça. Fais ça, fais ceci, fais cela. Mais ça sera quelque chose qui sera gravé dans nos cœurs. Ce sera l'Esprit de Dieu qui sera dans nos vies. Est-ce que vous pouvez dire ce matin, je sais que l'Esprit de Dieu habite dans ma vie. Je sais qu'il est en moi. Alors vous allez me dire, là c'est écrit, l'Esprit est sur moi. On y revient. On y vient tout à l'heure. Mais l'Esprit de Dieu est-il en vous? C'est la première question. Ézéchiel, au début de son livre prophétique, va nous dire à deux ou trois reprises, l'Esprit de l'Éternel entra en moi. Et c'est quelque chose de glorieux quand on sait que l'Esprit est rentré en nous. Mais il a dit que quand l'Esprit est rentré en lui, c'était juste après une parole de l'Éternel qui lui disait « Lève-toi, tiens-toi sous tes pieds. » Le Seigneur donne cette parole et il fait en sorte qu'on se lève. Ce n'est pas juste qu'il dit cette parole, c'est que si tu écoutes la parole de Dieu qui te dit « Lève-toi et tiens-toi sous tes pieds. » Si tu écoutes cette parole, alors il fait en sorte que ce soit une réalité. Vous avez entendu ce matin que Dieu a dit à son peuple, « J'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie. » Et quand tu entends cette parole, « Choisis la vie. » Eh bien, si tu acceptes, tu as la réalisation de ça qui se fait immédiatement. Il te donne la vie. Il te donne la vie éternelle. Il te donne la vie, la possibilité de marcher, d'avancer, de le servir, de le suivre, de l'honorer. Donc, l'Esprit de l'Éternel entra en moi et il me fit marcher, il me fit me lever et tenir devant lui, debout. Vous avez lu dans Jean chapitre 5 l'histoire du paralytique qui était allongé depuis tant d'années, qui ne pouvait pas bouger et qui, dans son désespoir, disait « Je n'ai personne ». Et peut-être ce matin, vous avez ce sentiment, cette conviction, c'est pas seulement un sentiment, que vous n'avez personne, qu'il n'y a personne qui peut venir vous aider, qui peut vous permettre de vous lever et marcher. Je ne parle pas physiquement, je parle spirituellement. Vous avez tant d'aspirations dans vos cœurs. Et Jésus a prononcé cette parole, « Prends ton lit, lève-toi et marche. » C'était une parole, si elle venait de quelqu'un d'autre, ça aurait été insultant. On ne peut pas dire un paralytique, « Lève-toi et marche. » On ne peut pas dire à un aveugle, « Lis-moi ceci. » Mais venant de Jésus, c'était glorieux. Et cet homme a entendu la voix. Il a entendu la parole de Jésus qui lui dit, « Lève-toi et marche. » Et le Seigneur l'a fait lever. N'est-ce pas? On ne peut pas dire à quelqu'un, « Lève-toi et marche. » sans qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais ce matin, par la foi, on peut proclamer tous ensemble que Jésus a dit « Lève-toi et marche. » Et il le dit à chacun, non pas physiquement, mais spirituellement. Tu ne peux pas marcher sous cette terre à moins d'avoir reçu l'Esprit de Dieu dans ta vie qui te donne la force de marcher. Les événements, les soucis, les guerres vont te mettre à terre, vont te terrasser. Mais écoute la voix de celui qui dit « Lève-toi et marche ». Écoute sa voix et dis « Seigneur, je veux répondre. Ce matin, je veux pouvoir me lever sur ta parole. » Ça, c'est quand l'Esprit de Dieu rentre en nous. On a la force de se lever et de marcher. Mais on a besoin de continuellement pouvoir marcher. On a besoin d'être conduit en continuité par l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Là, il n'est pas dit est en moi, bien que ce soit le cas, mais il est sur moi. Parce qu'on a besoin d'une autre expérience. On a besoin d'être revêtu du Saint-Esprit à l'extérieur aussi. L'apôtre Paul nous dit à plusieurs reprises, dit aux chrétiens à plusieurs reprises, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous. Il est en vous. Rappelez-vous, s'il est en vous, il vous donne la force de vous lever et de marcher. Mais ici, l'Esprit de Dieu est sur vous. Et pourquoi on a besoin? Parce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut quand même être influencé par le monde, par l'environnement, par ce qui vient de l'extérieur. À l'intérieur, il a la paix, mais les circonstances, comme a dit Sophie tout à l'heure, les circonstances, l'environnement peuvent susciter l'inquiétude, la crainte, le découragement. Et on a besoin d'être revêtu du Saint-Esprit à l'extérieur. Pas seulement d'être rempli du Saint-Esprit à l'intérieur, mais d'être revêtu à l'extérieur. Pour que les flèches du monde, les flèches de ce qui nous entoure, ne nous touchent pas. Pour que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous couvre, qui nous revêt, qui absorbe les flèches de l'ennemi. Vous avez lu dans Éphésiens chapitre 6 ce merveilleux passage concernant les armes spirituelles où le Seigneur nous ordonne de se revêtir des armes spirituelles. Ce sont des armes, bien sûr, une armure qui n'est pas réelle, qui n'est pas physique, qui n'est pas matérielle, mais elle est réelle spirituellement. Et c'est le Seigneur qui nous revêt de ça. C'est le Seigneur qui nous donne cette armure, qui nous donne cette ceinture, qui nous donne cette épée, qui nous donne ce casque du salut, qui nous donne les chaussures adéquate pour marcher. De sorte à ce que le chrétien, quand il s'est levé et a marché, parce que l'Esprit de Dieu est venu en lui, il peut aller dans le monde sans être touché par les influences du monde, s'il est revêtu aussi du Saint-Esprit. Et Jésus, bien sûr, était l'exemple parfait. C'est pour ça qu'il pouvait dire que cette prophétie d'Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Eh bien, il pouvait dire que c'est accompli en sa personne, en lui-même, en Jésus. Alors pourquoi l'Esprit de Dieu était sur lui? C'était pour accomplir une mission sur la terre. L'Esprit en nous sera toujours là quand on l'a réellement rencontré, quand on l'a réellement laissé l'Esprit de Dieu agir en nous et nous faire lever et marcher. Mais ici, l'Esprit est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Et voilà le message premier de l'Évangile, de Jésus. Il est venu annoncer l'Évangile aux pauvres. Ça veut dire qu'il n'est pas venu annoncer l'Évangile aux riches, à ceux qui sont bien socialement. Vous allez me dire, mais si, il y a des... Non, il est venu pour les pauvres. Alors, est-ce que certains se disent, est-ce que je dois arrêter mon travail pour pouvoir bénéficier de la venue de Jésus? Il est venu pour les pauvres, je répète, et seulement pour les pauvres. Mais il ne s'agit pas des pauvres matériellement. Il s'agit des gens qui savent qu'ils sont pauvres spirituellement. Lorsque Dieu s'adresse dans l'Apocalypse à l'église de Laodicée, il a dit « Tu te crois riche, mais tu es pauvre. » Est-ce que vous savez que vous êtes pauvre ce matin? Est-ce que vous savez que vous avez, est-ce que vous sentez ce besoin de connaître Dieu davantage? Si vous sentez ça, ça veut dire que vous reconnaissez que vous êtes pauvre. Parce qu'un pauvre, il a faim. Et quand on a faim, on aspire à ce qu'on puisse avoir à manger. Quand on est pauvre, on a froid et on aspire à pouvoir être revêtu. Quand on est pauvre, on ne peut rien faire et on aspire à pouvoir faire les choses. Et bien comme ce paralytique était pauvre, lui était pauvre matériellement aussi, si tu reconnais dans ta vie que tu es pauvre spirituellement, que tu es rempli de péché, alors Jésus est venu pour toi ce matin pour te revêtir du Saint-Esprit, mais aussi pour te remplir du Saint-Esprit. Mais si tu te crois riche spirituellement, si tu penses que tu as bien fait, tu as bien conduit ta vie, comme les pharisiens du temps de Jésus, ils étaient choqués des propos de Jésus parce que eux étaient des gens très bien. Ils se sentaient riches spirituellement. Jésus n'est pas venu pour eux. Et si tu te sens riche, alors malheureusement, Jésus ne peut pas faire grand-chose pour toi parce qu'il est venu pour les pauvres. Il est venu annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Et quand Jésus donne une bonne nouvelle, quand il a dit au paralytique « Lève-toi et marche », il ne lui a pas juste dit ça. Quand il a dit à l'aveugle que l'aveugle était guéri, il ne lui a pas juste dit ça. Il a fait, il a donné la guérison. Vous savez, il y a des gens, tellement de gens qui ont annoncé à des gens sur la terre qu'ils pouvaient avoir la guérison. Et il n'y a rien qui s'est passé. Et ça, c'est quelque chose de dramatique quand la personne avait de l'espoir. Mais avec Jésus, il n'y a pas de déception. Parce que c'est lui qui prononce la parole, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une femme, c'est lui qui annonce, qui proclame la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y a personne ici probablement qui peut dire qu'elle ne sait pas ce que c'est que d'avoir un cœur brisé. Combien de gens ont le cœur brisé? Combien d'enfants ont le cœur brisé parce que les parents se sont séparés? Combien d'adultes ont le cœur brisé parce que leurs parents se sont séparés? Ils ont été déchirés entre l'affection d'un père et l'affection d'une mère. Combien de gens ont été abusés? Et ils sont déchirés, ils ont le cœur brisé parce que leur vie est gâchée. Parce qu'on leur a refusé leur enfance, on leur a refusé leur adolescence ou leur vie d'adulte. Et combien ils ont le cœur brisé. Sur la terre, on est en train de bafouer le mariage, on est en train de fouler aux pieds le mariage. Et ça fait que beaucoup de jeunes qui se rencontrent savent à l'intérieur de leur vie que ça ne va pas durer, qu'un jour ou l'autre, ils seront trompés, ou un jour ou l'autre, ils seront terriblement brisés dans leur cœur. Mais le message merveilleux de l'Évangile, c'est que Jésus est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour ceux qui sont déchirés. Il est venu pour ceux qui ont des lourds fardeaux. Vous savez, cette parole, et il faut les apprendre, ces paroles simples de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux de connaître ces versets-là et de pouvoir les donner à quelqu'un qui est dans le besoin, qui a le cœur déchiré, qui a le cœur brisé. Jésus est venu pour cela. Si vous n'avez pas le cœur brisé, eh bien, Jésus n'est pas venu pour vous. Vous allez dire, mais je ne peux pas créer ce cœur brisé pour pouvoir avoir le bénéfice de la venue de Jésus pour moi. Non. Mais si vous ne reconnaissez pas que votre cœur est brisé par le péché, si vous ne reconnaissez pas que votre cœur est détruit par les décisions de votre vie, par les choses qui vous lient, les choses qui vous oppriment, les puissances qui influencent vos comportements et pour lesquelles vous n'êtes pas maître, desquelles vous n'êtes pas maître. Eh bien, si vous reconnaissez cela, le Seigneur Jésus est venu pour vous. Vous pouvez dire ce midi, ou quand vous rentrez chez vous, vous pouvez dire, Seigneur, mon cœur est brisé, parce que je voudrais te suivre, mais je suis attiré par tout un tas de puissances, tout un tas de choses qui m'attirent loin de toi. Et mon cœur est déchiré, mais je veux te suivre. Tu as dit que tu es venu pour ceux qui ont le cœur brisé, alors tu es venu pour moi. Et si vous avez été trompé, si vous avez été déçu, si votre cœur est brisé, ce matin, venez à Jésus. Venez à Jésus. Il ne va pas vous reprocher les choses. Il va juste prier avec vous et toucher dans vos vies ce qui doit être touché. Mais croyez-le. Croyez qu'il est venu pour vous. Il est venu pour ceux qui sont pauvres. Il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés ou aux prisonniers la liberté. Il est venu pour apporter la liberté. La devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. Ouf, liberté. Il y a de moins en moins, les Belges disaient sur la devise française qu'il faut bien regarder ce qui est écrit sur les pièces de monnaie. C'est liberté, point. Égalité, point. Fraternité, point. Sous-entendu, liberté, il n'y en a point. Fraternité, il n'y en a point. Égalité, il n'y en a point. La liberté. Est-ce que ce matin, vous pouvez dire, je suis libre? J'ai été libéré. Il ne peut pas y avoir de conversion à l'Évangile à moins d'être libre. Libéré. Libéré de ce qui nous obsédait. Libérer nos idéologies, libérer même d'une bonne éducation. Les gens qui ont une bonne éducation qui sont des gens bon chic, bon genre, les gens qui n'ont jamais fait de mal à une mouche, ils ont besoin de se rendre compte qu'ils sont criminels, qu'ils sont voleurs, qu'ils sont adultères, qu'ils sont pervers. Leur comportement est exemplaire, mais à l'intérieur, le cœur est sale. Le juge qui condamne, qui prononce la condamnation vis-à-vis d'un malfaiteur, doit savoir que lui-même serait dans le même état s'il avait connu l'éducation que ce condamné a connu. Quand on a vu, quand on travaillait parmi les enfants dans certains quartiers défavorisés d'Hazebrouck, on voyait des enfants qui ont vécu des atrocités qui leur ont été faites par leurs parents ou par des proches voisins. Eh bien, ces enfants-là, on dit pauvres gosses. Mais dans 10 ans, on dira sales gosses. Parce qu'ils vont refaire la même chose, peut-être, que leurs parents. Mais on les condamnera. Et Jésus sait et connaît l'histoire de chacun. Mais il est là pour sauver. Il est là pour pardonner. Il est là pour libérer. Et si ce matin vous avez besoin d'être libéré de liens, Jésus est venu pour proclamer la liberté, pour faire en sorte que ceux qui sont enfermés, peut-être enfermés dans leur propre corps, vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas dire les choses qu'ils voudraient dire. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire « je t'aime » à leur conjoint. C'est plus fort qu'eux, quelque chose qui n'arrive pas à le faire. Jésus est venu pour te libérer. Te libérer de ce repli sur toi, d'avoir le sentiment d'être dans un étau qui te serre. Jésus est venu pour te libérer. Et la libération, la liberté que Jésus donne est radicale. Elle te donne la possibilité de louer le Seigneur, de pouvoir faire sortir de toi ce que l'Éternel a fait en toi. Vous savez, Jésus a dit, lorsqu'il était à Jérusalem, il a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Quand tu as la rencontre avec Jésus-Christ, il y a ce fleuve d'eau vive qui commence à couler de ta vie pour les hommes et les femmes. Les gens qui viendront te voir auront juste verront cette eau pure qui sort de toi et cet amour, cette tendresse, cette miséricorde. Le monde a désespérément besoin de ça. Ils ont désespérément soif. Est-ce que juste en parlant avec toi, ils ont ce fleuve d'amour, ce fleuve d'eau vive qui déborde de toi et qui touche leur cœur? Que Dieu fasse cette œuvre dans chacune de nos vies. Il est venu pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Une année de grâce. Sachez que vous êtes sous la grâce, que vous avez encore le temps de mettre votre vie en règle avec Dieu. C'est encore la grâce. Avant, on signait les documents, les lettres en disant l'année de grâce. Et on mettait la date, enfin l'année. Eh bien, c'est vrai que c'est une année de grâce. Vous ne savez pas du tout ce qui sera de nous l'année prochaine. Mais vous ne savez pas ce qui sera de vous aujourd'hui même. On doit prendre la décision de servir le Seigneur pendant qu'on est dans cette période de grâce. Parce qu'un jour, ça sera trop tard. Et le message de l'Évangile n'est pas un message cool. C'est pas quelque chose, comme je disais, c'est pas de l'opium pour vous faire sentir moins les choses. C'est qui montre la réalité. On a cité ce verset tout à l'heure. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et en grec, vérité, ça correspond à réalité aussi. Donc Jésus-Christ est le chemin, la réalité et la vie. Il ne va pas venir te couvrir d'illusions en disant « tu n'es pas si mal que ça ». Il va venir très clairement te montrer que tu as besoin d'être sauvé, que tu as besoin de le connaître et que tu es encore sous la grâce. Mais un jour, ça sera trop tard. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, de manière personnelle et de manière collective, on choisit de connaître Jésus? Alors, je vous propose 2-3 prières ou 2-3 phrases de prière. La première, c'est « Seigneur, que je sois rempli de l'Esprit ». Pour que je puisse me lever et marcher spirituellement. La deuxième, Seigneur, que je sois revêtu de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu soit sur moi, pour que ce ne soit pas les circonstances de la vie qui me font agir, mais que ce soit toi, ton Esprit. Et comme troisième prière, Seigneur, montre-moi que je suis pauvre, que je suis lié et que j'ai besoin de ta richesse, j'ai besoin de ta liberté, j'ai besoin de ton amour. Et quand l'Esprit de Dieu répond à ta prière, alors marche avec Dieu. Décide de marcher aujourd'hui avec le Seigneur. Amen.